Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Coopération Nations Unies, gouvernement congolais, une mission conjointe séjourne depuis hier dans le Tanganyika. Elle est allée évaluer sur le terrain les résultats concrets, notamment en matière de restauration de la paix et de renforcement de la résilience. Explication de la directrice adjointe du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Élection ce samedi du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central à Matadi. 8 candidats sont en lice, indique le président de la commission spéciale chargée d'organiser ces élections. Nous faisons le point dans ce journal. Et puis, avec la fermeture de certaines voies d'approvisionnement au Nord Kivu, le secteur pharmaceutique fonctionne difficilement. Le président provincial de l'Association des pharmaciens du Nord Kivu propose l'ouverture d'un corridor humanitaire pour sauver des vies. Lolo Gayala est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les Nations Unies analysent la contribution des interventions en matière de restauration de la paix, de renforcement de la résilience et de promotion du bien-être holistique des communautés dans le Tanganyika et une mission mixte système des Nations Unies et gouvernement congolais est sur place depuis hier vendredi. Les deux parties visent une coopération pour le développement durable. Le point avec Blaise Makasi Nandes qui est sur place.
Les secteurs ciblés sont principalement la santé, l'éducation, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la gouvernance locale. Ces domaines font l'objet des projets validés dans le cadre du processus d'élaboration conjointe du cadre de coopération pour le développement durable entre les Nations Unies et le gouvernement. Anne-Marie Dongui conduit la délégation du côté onusien. Pour elle, l'essentiel est d'évaluer les résultats concrets sur le terrain.
Notre mission vise à apprécier le travail qui est réalisé, avoir les témoignages des bénéficiaires, les résultats obtenus et des recommandations éventuellement sur comment pérenniser les acquis de notre collaboration.
Rita Pembele, chef de service d'études et de planification au ministère du Plan et de la Coopération internationale, insiste sur l'importance de cette évaluation.
Nous allons, après les visites sur terrain, donner des recommandations, pouvoir réajuster, pour pouvoir réorganiser là où il y a eu des faiblesses.
Cette mission s'inscrit dans le cadre des coopérations pour le développement durable 2025-2029. Ce cadre résulte d'un processus participatif impliquant les institutions publiques, la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés locales. Kalemi Blaise Makasi, Radio Kapi.
Les regards des habitants du Congo central sont tournés vers l'Assemblée provinciale. Bientôt, en effet, le vote du nouveau bureau en remplacement de celui dirigé par Papi Mantezolo. Le décor est déjà planté dans la salle de la maison communale de Matadi où aura lieu cette élection. Les agents de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, sont déjà dans la salle. Ils installent un bureau de vote avec tous les dispositifs tels que les urnes et les isoloirs. Entre-temps, un dispositif sécuritaire important est placé dans les alentours de cette maison communale où se tient le vote. Le point avec Nana Plurish Mambou qui est à Matadi mais qui sera rendu ici avec Lievin Mwinga dans ce studio.
La plénière consacrée à l'élection du bureau définitif a débuté à 11h25 heure locale. Tous les 8 candidats en lice pour les 5 postes à pourvoir sont déjà dans la salle. 38 députés provinciaux du Congo central sont présents, y compris Papi Mantezolo et Joseph Nsalambi, respectivement président et le vice-président qui venait d'être déchu. Les agents et cadres de la centrale électorale ont déjà organisé un bureau de vote dans cette salle. À la fin de ce vote, ce bureau va se transformer en bureau de dépouillement. À l'extérieur de la salle règne un silence et une sécurité optimale. Les éléments de la police nationale congolaise sont déployés dans tous les accès menant à la mairie de Matadi. Ils filtrent les entrées non seulement des députés, des accompagnateurs des candidats, mais également des journalistes. En effet, seule la radio-télévision nationale congolaise Matadi, Radio Okapi et la presse de l'Assemblée provinciale ont eu droit d'accès dans la salle de vote.
Merci Lievine Mwinga-Vubu. Nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions et peut-être même Nana Pluriche qui est sur place qui suit ce vote. Nous poursuivons ce journal. Encore des réactions sur la main tendue du chef de l'État congolais à son homologue rwandais. Il s'agit cette fois du gouvernement congolais. Pour Judith Souminois, cette position du président Félix-Antoine Tshisekedi se justifie par le fait qu'il est en quête permanente du retour de la paix et le chef de l'État ne cesse de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de la RDC. La première ministre s'est exprimée ainsi au cours du Conseil des ministres qu'elle a présidé hier vendredi à Kinshasa. On écoute à ce sujet Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, propos sélectionné par Grace Amzati.
L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et les développements économiques de la région de Grand Lac. En ce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La première ministre chef du gouvernement a engagé par ailleurs le gouvernement à en prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo se positionner comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures, d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques.
Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo interdisent toute collaboration avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR et leur demandent de déposer les armes. Cette prise de position est contenue dans un communiqué de presse publié hier vendredi et signé par le général de brigade Sylvain Ekenge. D'après ce dernier, ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel du comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, accord signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. On écoute le général de brigade Sylvain Ekenge dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FRDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, au lendemain de l'attaque d'une position des FARDC à Mangodomu, 30 km à l'ouest de Beniville, par des individus armés non identifiés, la société civile de la commune de Mangina appelle les jeunes au sens patriotique. Elle demande aux services de sécurité de traquer ces assaillants qui déstabilisent la région en s'attaquant aux civils et aux forces de l'ordre. Kakule Mwongo Zivunyati, président de la société civile de Mangina, s'exprime à ce sujet. Il est joint par Marc Marofimbo.
De notre part, nous sommes en train de condamner l'attaque qui a ciblé la position des militaires FRDC. C'est dans ce sens que nous sommes en train d'appeler ces groupes inconnus au beau sens et au patriotisme, car actuellement, c'est le moment de travailler ensemble ou de fournir des efforts ensemble pour une force à vie de contrer l'ennemi qui est en train de nous déranger dans notre zone. Mais également, nous appelons aussi les services de sécurité de mener des enquêtes afin de mettre hors d'état de nuire ces groupes puisqu'ils jouent un jeu d'ennemi. Vous comprenez que toute la nuit, les gens ont crié à une incursion de l'ennemi ADF. Mais également, nous appelons aussi la population, même les services de sécurité, à une vigilance aiguë parce que avec cette attaque, ça montre déjà un mauvais signe. C'est-à-dire que nous devons tous multiplier d'efforts pour que la sécurité de Mangina soit bien rassurée.
Direction le Sud Kivu. Environ 150 filles venues de plusieurs écoles de Bunyakiri et ses environs, nous sommes dans le territoire de Calais, célèbrent aujourd'hui la journée internationale de la jeune fille. Les manifestations se sont déroulées à Kando sous la supervision du club des filles reporters, une structure qui œuvre pour l'expression et l'autonomisation des jeunes filles dans la région des Grands Lacs. La journée a porté essentiellement sur les échanges, l'apprentissage et les revendications autour des droits fondamentaux des filles reporters. Diverses manifestations étaient à l'ordre du jour, telles que les plaidoyers, les expositions, les débats et des poésies engagées. Ces filles ont présenté également quelques réalisations issues de leur propre créativité. Journée mondiale de la santé mentale, on en parle encore avec ce constat à Kisangani dans la province de la Tchopo. Plusieurs cas de maladies mentales sévissent dans la province. Pour la coordonnatrice provinciale intérimaire du programme national de la santé mentale dans la Tchopo, ces troubles mentaux sont souvent confondus au mysticisme et à la sorcellerie. Elle l'a déclaré ce samedi en marge de la journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année. Reportage de Jacques Moukonkolé.
Plusieurs personnes sont atteintes de troubles mentaux dans la Tchopo. Cependant, la plupart des familles les confondent à la sorcellerie ou aux maladies d'origine mystérieuse, déclare la docteure Sandrine Basila, raison pour laquelle, au lieu de les diriger vers un centre spécialisé de traitement, on les amène plutôt dans des chambres de prière. Il faut donc sensibiliser cette population afin de la tirer de l'ignorance, dit-elle.
Actuellement, nous essayons de récupérer, de sensibiliser la population par rapport à ça. Nous venons de loin, bien sûr. Et il y a encore des gros travail à faire par rapport à la santé mentale.
Le centre Simama, qui prend en charge cette catégorie de malades, ne reçoit que 40% de ces derniers. Le reste erre dans la nature ou se trouve enfermé dans des chambres de prière. C'est ce qu'estime le directeur de ce centre. Le frère Pascal Barakata en appelle au soutien de l'État congolais.
La clôture est en bois. Quand le malade s'agite, il fuit pour ne plus les trouver. Or que dans un centre neuropsychiatrique, il faut qu'il y ait une clôture qui encadre tous les malades qui sont là pour qu'ils ne puissent pas s'évader.
Néanmoins, le directeur du centre Simama félicite certaines familles qui jouent un rôle crucial dans l'encadrement de leurs membres souffrant de troubles mentaux, notamment dans la stabilisation de leur état. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, les avancées sont enregistrées dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui recommande la participation des femmes dans la résolution des conflits. Cependant, cette mise en œuvre fait face à beaucoup de défis. C'est ce qu'a révélé la coordonnatrice du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, dans un atelier clôturé hier à Kinshasa. Écoutez à ce sujet Grace Lula Amba au micro de Blaise Shindani Kambala.
La question genre. C'est une question qui ne concerne pas les femmes. C'est une question qui doit être regardée de façon transversale. Ça signifie que dans tous les ministères, dans toutes les institutions, quand nous devons budgétiser, on commence par la planification. Et dans la planification, nous avons déjà un regard genre. C'est-à-dire que nous regardons l'activité que nous allons mener, l'action que nous allons mener. Quel est l'impact sur les hommes et les femmes, sur les garçons et les filles, sur les personnes valides et les personnes vivant avec handicap. Comme ça, quand on a mieux planifié en prenant en compte tout le monde, on va aussi budgétiser en respectant des lignes qui font l'équilibre. C'est-à-dire que les actions doivent profiter à la fois aux hommes et aux femmes.
Actualité internationale. Nous sommes à Antananarivo, la capitale de Madagascar. La contestation se poursuit, la répression aussi et le couvre-feu est maintenu. Hier encore, les manifestants ont fait face aux forces de l'ordre dans le quartier du lac Anoussi. Moins nombreux que la semaine passée, un petit millier de citoyens est venu réclamer des conditions de vie décentes. Depuis deux jours, les forces de sécurité font face aux manifestants avec plus de fermeté. Des images de gendarmes s'en prenant violemment à des manifestants ont fait le tour du monde, obligeant certains à prendre la parole.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le président provincial de l'Association des pharmaciens du Nord Kivu. Lolo Gayala dresse un état des lieux actuels du secteur pharmaceutique au Nord Kivu. Il évoque les défis liés aux importations des médicaments avec la fermeture de certaines voies d'approvisionnement. Il propose l'ouverture d'un corridor humanitaire pour sauver des vies. Lolo Gayala s'entretient avec Denise Lukeso.
Bonjour, monsieur Lolo Gayala.
Quel état des lieux du secteur pharmaceutique que vous faites aujourd'hui?
Actuellement, on assiste à un problème énorme de rupture de médicaments dans la province et plus particulièrement dans la ville de Goma. La ville de Goma, c'est une ville asphyxiée. Nous n'avions plus de contact avec l'extérieur, sauf la voie routière qui va vers les pays voisins. Mais l'importation des médicaments est régie par des normes. On n'importe pas les médicaments de n'importe quelle manière. Et actuellement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions faire les importations des médicaments. Ça, c'est pour le privé, mais pour l'État. L'État était approvisionné à partir du niveau central à Kinshasa pour que les hôpitaux et les centres de santé de l'État aient le médicament. Cela ne se fait plus. Il est normal qu'on soit à rupture de médicaments et plus grave pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. Actuellement, ils n'ont pas accès à leurs médicaments, ce qui augmente les taux de mortalité au niveau de la ville.
Et comment vous vous sentez de voir des malades qui rentrent avec des ordonnances non servies?
La situation dans laquelle nous nous retrouvons déjà, c'est une situation qui crée beaucoup de dépression, qui a beaucoup de stress, ce qui fait qu'il y a même de nouveaux malades qui viennent parce que ils sont déprimés, ils doivent être pris en charge. Mais avec quels médicaments? Nous sommes dans une situation de la guerre.
Et actuellement, quels sont les grands défis dans la chaîne d'approvisionnement auxquels vous faites face?
Nous, en tant que pharmaciens au niveau de la province du Nord Kivu, nous avons effectivement des difficultés pour importer le médicament, d'autant plus que les autorisations d'importation nous sont accordées par le gouvernement central à Kinshasa. Et actuellement, nous n'avons pas accès à des plateformes qui nous permettent de pouvoir importer le médicament parce que ces autorisations d'importation sont accordées par la COREP. Et du coup, la population du Nord Kivu en souffre, surtout ceux qui ont des maladies chroniques telles que les diabètes, les hypertensions. Et plus grave encore, il y a une pénurie des antirétroviraux, des antituberculés, parce que toutes ces ONG qui étaient en train d'intervenir dans la province éprouvent les mêmes difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a des défis logistiques énormes pour faire arriver à Goma les produits pharmaceutiques. Nous faisons un plaidoyer pour que les autorités de la République, tant au niveau national, mais aussi les occupants de la province, pour qu'ils comprennent que la santé n'a pas de connotation politique, qu'on passe à cette province meurtrie, qu'on mette de côté tout ce qu'il y a comme rivalité politique parce que la santé n'a pas de couleur politique. Nous, en tant que pharmaciens, nous avons prêté serment de pouvoir desservir la population en médicaments de qualité. Et quand nous voyons les gens mourir par manque de médicaments, ça nous fait très mal. Nous faisons donc un plaidoyer pour qu'un couloir humanitaire soit ouvert pour permettre à la province du Nord Kivu d'accéder à des médicaments de qualité pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Sinon, si on n'ouvre pas ces couloirs-là, et nous allons connaître une augmentation de taux de mortalité. Déjà qu'il y a beaucoup de morts de suite de la famine, de suite de la guerre, ainsi de suite. Et si on doit encore ajouter des morts pour manque de médicaments, ce serait catastrophique.
Monsieur Lolo Gayala, Radio Kapi, vous remercie.
Je vous remercie.
Voilà, c'était là le président provincial de l'Association des pharmaciens du Nord Kivu qui répondait aux questions de Denise Loukesso. Par ici prend fin ce journal supervisé et coordonné par Lievin Mwinga Vubu et Jean Gandou à la mise en onde Alain Goy. Merci d'avoir été des nôtres.